Un nouveau podcast que nous vous proposons sur M Provence avec le président du Conseil économique, social et environnemental régional, Marc Pouzet. Alors on va faire un petit peu de pédagogie si vous permettez, monsieur le président. C'est pas l'assemblée la plus connue de nos concitoyens, le Conseil économique, social et environnemental. Il y a une déclinaison nationale et puis des déclinaisons régionales. Ça sert à quoi en fait le CESE et donc ici le CESER ?
Bonjour. Alors le Conseil économique et social, c'est une structure qui est extrêmement importante, mais qui, par sa vocation, par son statut, par son fonctionnement, a vocation à être discrète. Et alors c'est d'autant plus curieux que nous représentons l'ensemble de la société civile d'un territoire, le territoire régional. Alors cette complexité, on peut la détailler quand vous le souhaitez.
Alors, on va commencer. Donc aujourd'hui, la composition déjà du Conseil économique et social, environnemental, puisque c'est aussi... d'abord, c'est depuis quand qu'il est environnemental, ce Conseil économique et social ?
Écoutez, ça tombe bien. L'année dernière, on a fêté les 50 ans d'existence. Oui. Donc de quoi est né le Conseil économique social ? Le Conseil économique social est né au moment où les régions se sont développées. Le législateur a pensé que ça serait bien d'avoir une représentation de la société civile organisé, on reviendra sur le mot organisé, pour siéger à côté des élus et leur faire remonter, entendre, voire critiquer parfois, la politique qui est conduite sur le territoire, afin de bien mettre en phase le politique et, si on peut dire, les utilisateurs du territoire.
Et donc, économique et social, on voit bien. Le côté environnemental, il est apparu après ou bien dès le départ, c'était inscrit ?
Oui, je crois que le côté environnemental, il est tombé sous le sens au fur et à mesure de l'évolution de notre environnement. Donc, ça fait, je crois, de mémoire, 8 ans que nous sommes et environnemental, mais ça veut bien dire que toutes les sensibilités territoriales sont représentées. Alors comment nous sommes mis en place et qui nous sommes ? Nous sommes d'abord très particuliers puisque nous sommes la deuxième assemblée régionale voulue par la loi. Donc c'est une structure représentative. Ensuite, nous ne sommes pas cooptés, comme le sont par exemple les conseils de développement, mais nous sommes désignés par le préfet de région. Et comment le préfet de région nous désigne ? Il y a un texte de loi très précis. Le préfet doit représenter à travers 3 collèges, un collège patronal, un collège syndical, un collège économie sociale, solidaire et environnementaliste et quelques associations qui pèsent, uniquement des organisations régionales qui sont le fruit soit d'élections professionnelles, c'est le cas en particulier pour les représentants du monde syndical, mais aussi représentatifs de leur poids sur le territoire, c'est le cas des organisations patronales.
Alors ce conseil, il est, on le dit souvent, mais peut-être que vous pouvez nous expliciter ce que ça signifie, représentatif en fait de la société civile dans toutes ses couches.
Absolument, puisque le préfet a pour mission de nommer 144 membres, le même nombre que les conseillers régionaux élus au suffrage universel, et il veille à ce que l'ensemble des sensibilités soient présentes. Alors ça veut dire que vous avez aussi bien l'économie sociale et solidaire que les environnementalistes, que les représentants des enseignants, que les représentants de petites associations, mais qui ont un poids important en termes d'environnement, comme par exemple la Ligue de protection des oiseaux, et puis tous les syndicats de salariés, donc depuis, je ne peux pas tous les nommer, donc je dis personne pour oublier quelqu'un, mais simplement tous les syndicats de salariés, et ensuite le monde patronal à travers toute leur structure, MEDEF, Chambre de commerce, Chambre des métiers, Chambre d'agriculture, l'ensemble des grandes structures professionnelles, les banques, etc. Donc tous ces gens-là sont représentatifs du territoire et forcément du territoire régional. C'est-à-dire que le préfet veille à nommer des gens qui représentent tous les départements qui font région.
D'accord. Et dans tout ça, l'essentiel, c'est peut-être que vous nous disiez maintenant sur quoi vous travaillez. En fait, vous planchez sur quel type de sujet ? À la demande de qui ? Est-ce que vous pouvez vous-même dire on va s'occuper de telle question ? Ou est-ce que vous intervenez en fonction des actualités de la région et des élus du Conseil régional ?
Alors il y a 2 axes. Un premier axe qui est légal, c'est-à-dire que les orientations budgétaires, le budget de la région et le compte administratif ne peuvent pas être votés par le Conseil régional sans l'avis du Conseil économique, social et environnemental. Ça, c'est le côté structure. Et ensuite, le président de la région, s'il le souhaite, ce qu'il fait d'ailleurs, nous saisit sur certains sujets pour donner notre avis et nourrir leur réflexion, ce qui ne veut pas dire que ce que l'on va dire va être retenu, mais c'est le principe de la démocratie. Nous exprimons notre ressenti, la société civile exprime son ressenti, nous le transmettons aux élus, et les élus, eh bien, ils en font leur salade, voire ils nourrissent même leur réflexion, voire des évolutions. Je pourrais vous donner des exemples concrets si vous le souhaitez. Ça, c'est la partie donc venant du Conseil régional et des missions. Et puis, il y a une deuxième partie, c'est nous, c'est-à-dire le CESER, nous pouvons nous auto-saisir. C'est-à-dire que si nous considérons qu'il y a un sujet régional, une sensibilité, un point particulier, nous nous saisissons du sujet, nous produisons un avis que nous donnons aux élus en leur disant « voilà, nous avons eu un œil particulier sur ce sujet, ça mérite que vous le regardiez ». Et c'est ainsi que fonctionnent donc les représentants de toute la population de la région, représentatifs, donc ça a du sens, et que nous apportons aux élus cet écho.
Et donc là, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une situation où vous vous êtes auto-saisi d'une question importante pour le territoire ?
Oui, il y a des exemples extrêmement simples. Nous avons été saisis par le président de la région pour donner notre avis sur le fait qu'il y avait deux comités régionaux du tourisme, un dans les Alpes-Maritimes et un pour le reste du territoire. Donc nous, on a fait une étude, on a rencontré les acteurs et on a fait une synthèse en disant « c'est pas cohérent, il y a des économies d'échelle et puis la parole de la région, elle doit être une et que la communication qui va avec soit en concertation avec un axe fixé par le Conseil régional ». Donc nous avons rendu notre avis au président. Il a pris le temps, il a réfléchi, il a consulté ses équipes, il a consulté les élus. Et puis, un certain temps après, il a pris la décision de ne faire qu'un seul comité régional du tourisme.
Voilà, et du coup, il n'y a pas le comité régional des Santons et de la Bouillabaisse d'un côté et celui du Grand Prix de Monaco et du Festival de Cannes de l'autre. Est-ce qu'il y a des situations où vous êtes vraiment auto-saisi de sujets, je dirais, sur lesquels la région n'avait pas peut-être perçu le côté très important pour nos concitoyens ou pour le territoire? Vous avez alerté, vous avez dit, tiens, là, sur cette question-là précise, il faut qu'on s'auto-saisisse pour vous donner notre avis.
Oui, mais ce n'est pas forcément contre ou par rapport à un point de vue de la région. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est l'expression des citoyens. Je vais vous donner des exemples concrets. La région a la volonté extrêmement forte de développer la fibre pour qu'elle arrive à ce qu'ils appellent au dernier kilomètre. Et donc, un énorme travail a été fait. Et aujourd'hui, la région dit « on y est ». Alors, nous, on a dit « c'est bien, on va voir si ça fonctionne ». Et puis, on est allé au bout du bout du bout. Elle est au dernier kilomètre, oui, mais elle n'est pas au dernier mètre avant l'utilisateur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la région a installé la fibre sur tout le territoire. Mais quand vous êtes au fin fond d'un petit village comme Ristolas, au hasard, hein, je dis ça, je pourrais dire un autre, on s'aperçoit que la fibre, elle arrive au poteau du village. Il y a un petit paquet de fibres qui est accroché à un poteau. Mais les habitants, ils n'ont pas encore la 5G. Pourquoi ? Parce que les opérateurs allaient installer 5 ou 6 bornes boîtes dans un petit village où il va falloir l'hiver aller dépanner, déplacer quelqu'un peut-être pour faire 200 km pour aller changer sa box, etc. Personne ne se précipite. Et du coup, il manque le petit bout. Et l'utilisateur que nous représentons, la société civile, elle dit à l'élu « et ça ne marche pas ». Alors moi, je remonte ces informations au président de région qui tape sur la table, qui dit « mais c'est pas possible, on a mis des moyens, on a fait tout ». Et donc le président s'en occupe et va faire pression ou fait déjà pression sur les grandes entreprises qui en charge le numérique et l'équipement du particulier de veiller à ce que ça arrive chez eux, même s'il n'y a que 4 clients. Ça fait partie du service qu'ils doivent apporter.
Et aujourd'hui, le fait que vous soyez représentatif de cette société civile, donc avec des gens sont en activité dans la société, peut-être moins déconnectés que certains politiques, c'est utile là, d'avoir des gens qui sont vraiment les pieds dans la glaise et qui savent ce que c'est aujourd'hui que le terrain, peut-être moins que certains politiques, c'est pas le cas de tous, mais qui sont peut-être parfois un peu plus, entre guillemets, satellisés.
Vous savez, je pense qu'il ne faut pas opposer les politiques comme si c'est la mode aujourd'hui, le politique. Il faut connaître leur vie pour se rendre compte de la complexité. Aujourd'hui, quand vous êtes un élu de la région, vous êtes en général un élu de territoire. Donc, première contrainte, il faut vous occuper de votre territoire, parce que c'est eux qui vous ont désigné, donc ça prend du temps. Deuxième chose, il faut venir à la région. Bon, selon où vous êtes en tant que représentatif, c'est pas simple, c'est compliqué en termes d'approche. Bref, vous arrivez à la région. À la région, il faut connaître le fonctionnement de la région. C'est une grosse structure qui a de plus en plus de responsabilités sur des sujets majeurs. Hein. Je pense le transport, je pense au lycée, enfin des sujets qui sont majeurs pour l'aménagement du territoire. Donc l'élu, il faut qu'il consacre du temps. Alors non seulement à connaître les dossiers de la région, mais à connaître la réglementation française et européenne. Bien, rien que quand je vous dis ça, on se demande où ils prennent le temps pour pouvoir faire le reste. Donc, ne jetons pas toujours l'opprobre sur l'élu, essayons de comprendre comment ça fonctionne. Regardons aussi, nous, société civile, la responsabilité. Moi, je dis souvent à mes collègues, mais combien de fois vous dites à l'élu ce qui ne va pas ? Combien de fois vous lui faites remonter ? Et aussi la satisfaction. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays en passant notre temps à critiquer tout. Je veux dire, il y a 99% des gens qui peuplent le monde qui rêvent de venir en France, et vous avez 50% des Français qui voudraient pas, qui sont pas heureux, mais vous remarquez qu'ils ne partent pas quand même. Donc je pense qu'il faut recréer ce lien entre la société civile, nous dire des choses, ce n'est pas les faire, et c'est plus facile à dire qu'à faire. Et donc nous avons un devoir, informer, l'élu entend, passe à sa moulinette, qui est compliquée, parce que ce n'est pas que le choix de l'élu, c'est les réglementations, c'est les financements, c'est le temps long pour faire la moindre réalisation. Donc dans toute cette complexité, on travaille à améliorer l'intérêt général du bien vivre au territoire. Voilà.
Et alors vos décisions se prennent sous une forme collégiale. Comment est-ce que vous travaillez? Qui est avec vous? Parce que là, vous avez parlé des personnes qui composent le Césaire, mais je suppose que vous avez des équipes. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail de la machine?
Oui, d'abord le fonctionnement du Césaire, parce que ça, c'est un point important. Vu que nous représentons la société civile dans sa diversité, qui a aussi bien le patronat que les syndicats, que les environnementalistes, que l'économie sociale et solidaire, je dirais en plaisantant, c'est un peu des carpes et des lapins qu'il faut faire travailler ensemble pour rendre un avis. Alors nous avons une méthode de travail qui est très simple, nous travaillons en commission, commission miroir de celle de la région, c'est-à-dire que si on a une commission montagne, c'est qu'il y en a une à la région, et on va travailler sur un sujet. Et qu'est-ce qu'on va produire? On va produire trois documents. Un premier document qui est l'avis du Césaire, c'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pense, la société civile, elle, est capable de s'entendre et de partager un consensus sur un sujet. Une fois qu'on a ce consensus, il y a des sensibilités. C'est-à-dire que l'avis du collège patronal ne sera pas forcément le même que l'avis du collège syndical, que l'avis des environnementalistes. Nous allons donc amener un deuxième document qui est l'avis du collège. Et puis, il y a un troisième document qui est l'avis des groupes qui sont dans les collèges. C'est-à-dire, je suis dans le deuxième collège, il y a un avis qui peut être différent entre FO et FSU ou bien la CGT. Et donc, ce qui est important, c'est que nous apportions à l'élu l'ensemble des sensibilités. Ce qui fait l'élu, il a le tronc commun de la société civile, l'avis du Césaire. Il a ensuite l'avis des collèges, la sensibilité du corps dans lequel se fait exprimer l'avis. Et puis, chaque petit groupe qui peut donner son avis. Donc, l'élu, en lisant 20 pages, il a la vision complète de la prise de position de la population et des acteurs économiques et des acteurs sociaux et des acteurs environnementalistes sur un sujet.
Mais aujourd'hui, quand vous voyez les critiques qu'on entend sur les différentes couches, les différentes strates où plus personne s'y retrouve sur un même territoire, les communes, les communautés de communes ou les métropoles, les départements, les régions, etc. Votre structure à vous qui apporte cette voix en fait de la population, des citoyens, pourquoi est-ce qu'on va créer au-dessus des conventions pour le climat, des conseils pour la refondation, etc. S'il y a des Césaires dans toutes les régions de France, ça devrait suffire. Comment est-ce que vous expliquez, avec l'expérience que vous avez, cette boulimie de créer des structures nouvelles et qui souvent sont imposées d'en haut?
Vous avez parfaitement raison. C'est un des grands problèmes de notre organisation en France. Nous avons une complexité où on empile les structures, et quand on ne les empile pas, on va inventer un truc qu'il fallait, aller trouver, d'aller tirer des gens au sort pour représenter la population, pour donner un avis sur un sujet qui intéresse tout le pays. C'est complètement kafkaïen comme idée. Le principe même de la République française, c'est la représentativité. C'est-à-dire que nous, les citoyens, nous élisons un certain nombre de nos représentants pour nous représenter. Et là, on invente un nouveau truc de tirer au sort des gens. Mais on marche sur la tête. Franchement, on marche sur la tête. Et nous, les conseils économiques et sociaux, mais c'est vrai dans toute la France, nous souffrons de ne pas être plus utilisés. Puisque nous sommes indiscutables, nous sommes nommés par le préfet. Donc on ne peut pas dire que nous sommes des influents, que nous sommes désignés par des politiques, qu'on est désignés par des copains et des coquins. Ce n'est pas du tout le cas. C'est le préfet qui nous met en place. Donc objectivité, représentativité, indiscutable. Pourquoi on ne nous consulte pas, nous? Nous avons la capacité de faire remonter ces choses-là. Ma foi, je ne sais pas. Les corps intermédiaires ne sont pas dans l'air du temps, hélas. Et je le regrette, parce que quand on affaiblit les corps intermédiaires, il y a beaucoup de risques d'affaiblir la société dans son ensemble.
Alors justement, ça c'est une belle question, cette notion de corps intermédiaire. Définissez-nous ce que c'est qu'un corps intermédiaire.
Mais c'est très simple. C'est-à-dire que moi, j'habite une petite ville. Bon, je ne peux pas tous les matins aller parler au maire, je ne peux pas tous les matins aller parler au président d'un club de foot, et donc il y a des gens qui sont chargés de nous représenter. Et comment ces gens-là arrivent là? Soit quand on est dans des petites structures, eh bien parce qu'on considère que c'est la personne soit la plus dévouée, parce qu'il faut quand même des gens dévoués pour s'occuper du collectif, soit c'est des gens qu'on considère comme les plus compétents. Mais nous, au niveau du Césaire, notre représentativité, elle est faite par le préfet sur des bases factuelles indiscutables. Donc, il n'y a pas meilleure représentation non élue au suffrage universel que les conseils économiques et sociaux.
Alors, cette intermédiation, vous la faites jouer comment ? Puisque vous, vous n'êtes pas des élus, donc vous avez été, vous l'avez dit, nommé par le préfet, vous représentez la société civile, mais comment est-ce que vous apparaissez ? Comment est-ce que vous êtes visible ? Comment vous dites à vos concitoyens, bah, écoutez, ça, ce sujet, vous pouvez m'en parler parce que je suis membre ou président du Césaire et vous inquiétez pas, je ferai travailler le dossier par mes équipes et si nécessaire, je le ferai remonter à la région.
Alors, comme je vous l'ai expliqué, on est les représentants des corps intermédiaires. C'est-à-dire que normalement, nous, on n'est pas directement en contact avec le grand public. C'est le grand public, à travers son engagement, s'il est chef dans l'entreprise, ça sera une chambre des métiers. S'il travaille dans l'économie sociale et solidaire, ça sera la CRES. S'il est dans un syndicat de salariés, ce sera les syndicats. Bref, c'est tous ces réseaux-là qui ont vocation à collecter, par leur sensibilité et leur proximité territoriale, la voix du citoyen. Donc ces corps intermédiaires sont là pour justement les représenter. Alors la seule difficulté qu'il y a dans le modèle, c'est que les conseils économiques et sociaux n'ont pas de budget. C'est un peu un vice de forme dans la construction, si je puis me permettre, puisque nous sommes, entre guillemets, tributaires des financements du conseil régional. Alors là, après, il y a une question de bonne intelligence. Le conseil régional n'a pas intérêt à se mettre à tort ou à dos ou à crisper les gens qui représentent les corps intermédiaires. Et donc, on a intérêt à travailler en bonne intelligence. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons d'excellentes relations avec la région. On a mis en place beaucoup d'outils pour mieux faire passer nos travaux auprès des élus. Mais c'est quand même un petit peu limite de ne pas avoir une certaine indépendance qui permette de communiquer, par exemple, ou de faire des choses aussi simples que faire de la divulgation de nos travaux plus largement.
Et donc, aujourd'hui, vous vous appuyez sur une équipe de combien de personnes ? Est-ce que vous allez, de temps en temps aussi, chercher des ressources extérieures, des consultants pour vous aider sur un certain nombre de dossiers ?
Donc, pas de budget, pas de consultants extérieurs, puisqu'on n'a pas de moyens d'aller financer des gens qui viennent travailler avec nous. Mais juste par rapport à ça, on a quand même la notoriété de l'institution qui fait que lorsqu'on interroge de grands universitaires, de grands journalistes, de personnes qualité dans des grands groupes, etc., ils répondent toujours présents à notre invitation et on reçoit ici, je peux vous dire, toutes les hautes personnalités représentant l'économie et l'action sur le territoire. Ensuite, l'équipe, bon, c'est une équipe réduite, hein. On a 20 personnes qui sont du personnel de la région mis à disposition, ce ne sont pas nos propres salariés, mais avec lesquels il y a la conscience de ces gens qui ont le statut de fonctionnaire, qui fait qu'il y a un fonctionnement extrêmement attentif. Et en plus, pour tout vous dire, le sujet est particulièrement intéressant. Donc, en général, l'équipe se motive sur les travaux que nous faisons.
On a l'impression que le Césaire, c'est un monde assez, assez calme, et pourtant, il n'y a jamais eu autant de risques de fracture, et peut-être même de fracture dans la société française. Ici, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme ailleurs, on a ces temps-ci des débordements qui montrent qu'on est quand même dans une période très, très troublée. Puis, il y a eu des dossiers sensibles sur le plan du dialogue social, les retraites ou autres. Comment vous vivez ça aujourd'hui ? Quelle est votre perception de ce monde-là ? Quand vous dites, finalement, quand je réunis mon assemblée, c'est assez calme, et puis de voir ces éruptions qu'on constate au coin de nos rues ou au centre de nos villes.
Je vais vous donner une expression que me disait toujours mon grand-père. Il me disait, quand dans la campagne, vous avez un banca où c'est les murets de pierre, quand il y a une pierre qui tombe, il faut faire attention, parce qu'à l'appui d'après, il y en aura deux, et puis il y en aura trois, et puis il y en aura dix, et un jour, tout le banca fout le camp. Eh bien, je pense que le fonctionnement en commun, c'est-à-dire le fonctionnement en société, c'est exactement ça. Normalement, il y a des petits signaux qui arrivent tous les jours. Sur des tas de sujets, on pourrait prendre des milliers d'exemples. Et puis, on le traite, on remet la pierre, ou bien on ne le traite pas. Et puis, si on ne le traite pas, il va y avoir vraisemblablement un nouvel incident, et ainsi de suite. Aujourd'hui, quand on parle des fractures de la société, quand on parle de la santé, quand on parle de l'école, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a des sujets qui traînent depuis des années et des années et des années, et qui, par facilité, qui par peut-être laisser aller, qui par parfois manque de courage, n'ont pas été traités lorsque la première pierre est tombée. Et aujourd'hui, on en arrive au moment où il y a l'addition qui arrive. Et donc, il y a des craquements dans toute la société. On n'a pas su s'adapter. Et je pense que ça doit tous nous faire réfléchir. Alors, c'est trop facile de dire c'est la faute du politique. Bon, le politique, c'est qui ? Le politique, c'est nous. C'est à nous aussi, citoyens. Tous ceux qui ne vont pas voter, par exemple, ne devraient pas avoir droit à la parole. Parce que si on ne s'engage pas au moment où on envoie des représentants, on n'est représenté que par ceux qui ont voté. Il ne faut pas se plaindre. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Et quand on vit en collectivité, quand on vit ensemble, eh bien, il faut s'intéresser au collectif. Et moi, je dis toujours à mes collègues, quand on discute, on échange, mais faites savoir à vos élus. Combien de fois vous écrivez à votre député? Combien de fois vous le rencontrez? Il faut les bousculer. Alors que moi, je vois que chaque fois qu'il y a un ministre, un député qui vient, tout le monde se colle à lui, la photo. Mais soyez exigeants. Demandez des comptes. Dites ce qui ne va pas. C'est l'engagement d'abord de la société qui compte si on veut faire les modifications dont on a tellement besoin aujourd'hui.
Mais Marc Pouzet, vous avez bien constaté que cette représentation officielle, elle a de moins en moins de succès. Il y a de moins en moins de gens qui vont voter. Il y a de moins en moins de gens qui trouvent que ça sert à quelque chose. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut en arriver à avoir des représentants de la société civile comme vous ou même du monde politique qui restent crédibles avec des faibles taux d'engagement, comme vous le disiez tout à l'heure, quand les gens vont voter? Aujourd'hui, c'est assez difficile d'être représentatif.
Oui, absolument. Et je pense que ça fait partie de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à une espèce de période de changement de paradigme. C'est le mot à la mode. On dit on change de paradigme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société change. La nouvelle génération n'est pas comme la mienne. Et vraisemblablement, les choses s'augmenteront. Regardez les moyens de communication, ce qu'on est en train de faire. On se parle sur un podcast. Bon, ben ça aussi c'est nouveau, la communication change, la relation à l'autre change. On devient dans une société qui a perdu peut-être aussi un axe majeur, c'est le sentiment commun. On est dans l'individualisme, moi d'abord, c'est vrai dans les familles pour les enfants, c'est vrai des fois par les parents. Moi je me souviens que mes parents se sacrifiaient pour s'occuper de nous quand on était petits, ils renonçaient à des sorties pour s'occuper de leurs enfants. Tout ça change, je le vois bien même avec mes enfants, donc c'est pas propre à quelques catégories de gens. Nous changeons, nous devenons dans un monde individualiste. Et ce qu'il faut se poser comme question, les changements, bien sûr, il y a des changements d'organisation, il y a des moyens à mettre, mais il n'y a pas qu'une question d'argent. C'est trop facile de toujours dire il faut de l'argent. Non, il faut recréer ce lien. Et ce lien, il ne se créera qu'en se mélangeant. Nous, quand on faisait le service militaire, moi, je vais vous dire quelque chose. Il a fallu que j'aille à l'armée pour me rendre compte que j'avais des collègues de mon âge qui ne savaient pas lire et pas écrire. Et c'était très drôle d'ailleurs, parce qu'on leur écrivait leurs lettres à leurs amoureuses et on se moquait un petit peu entre nous.
Justement, c'est une question importante aussi. Bon, on est dans des périodes où on a le résultat du baccalauréat, par exemple. On dit, bon, 84-86% des Français ont le bac, mais c'est des gens qui ont présenté le baccalauréat. Donc, ce n'est pas 84 ou 86% de tous les Français. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans la société, est-ce que ce n'est pas aussi votre rôle hein, au Césaire, il y a une assez mauvaise connaissance des différentes strates de la société? Quand on est dans une couche de la société, est-ce qu'on a suffisamment aujourd'hui de priorité pour dire, mais après tout, oui, les autres, ils vivent comme ça et je ne le sais pas forcément. Quoi.
Non, c'est tout l'intérêt de notre structure, c'est qu'elle est vraiment représentative. Nous avons comme membres du Césaire des gars qui sont des volontaires engagés, extraordinaires chez l'abbé Pierre. Nous avons un de nos collègues qui a travaillé à la reprise du McDo
à Sainte-Marthe,
sur le littoral, et qui gère ça avec un dévouement, une bonne volonté. Mais moi, j'en suis pantois d'admiration. Nous avons toutes ces couches de la société qui sont présentes. Donc, je pense que nous produisons un travail qui est apolitique, extrêmement généraliste. Alors, il n'est pas l'alpha et l'oméga, il est le point de vue d'une société. Ça ne veut pas dire qu'on a raison parce qu'on est le point de vue d'une société, fût-elle représentative. Parce que le propre du politique, justement, et c'est ce qui manque un peu aujourd'hui, c'est de prendre de la distance avec l'instantanéité pour s'occuper du temps long. Parce qu'on le sait tous, quand on veut changer quelque chose, et ça commence chez le particulier, si demain matin vous voulez changer vos fenêtres, vous savez que vous en avez pour 6 mois. Eh bien, imaginez quand il s'agit de l'organiser dans un territoire, fût-il même régional, le temps qu'il faut entre le moment où on dessine une voie ferrée et le moment où les gens voyagent. Donc c'est le temps long, et le temps long n'amène pas la satisfaction à notre société de l'immédiateté. Ça aussi, il faut le gérer.
Et justement, par rapport à cette société de l'immédiateté, quelles sont les solutions? Qu'est-ce que vous prenez comme aujourd'hui prise de décision? Comment est-ce qu'on peut arriver à faire comprendre que il y a des moments pour la réflexion et que forcément, on va peut-être pas pouvoir donner aux citoyens ce qu'ils demandent dans 8 jours?
Oui, c'est toute la complexité de la période actuelle. Je pense que on est bouleversé dans notre mode de relation à l'autre, et je pense qu'il n'y a qu'une chose dans ces cas-là, il faut se parler. Voilà, il faut se parler pour se comprendre, il faut se parler d'abord pour s'écouter. Et souvent, moi, je dis à des hommes politiques, c'est très bien ce que vous faites, bon, mais il ne s'agit pas de vous mettre au milieu d'un cercle et de savoir tout et d'avoir les réponses à tout. Non, ce que les gens veulent, c'est qu'on les écoute. Alors, ils ne disent pas forcément que des vérités, ils n'ont pas la raison dans tout, mais ils expriment une sensibilité que l'élu doit comprendre et transformer en modification pour amener des satisfactions qui ne seront jamais que des satisfactions individuelles, mais qui seront des satisfactions collectives qui devront rassembler le plus grand nombre.
Est-ce que cette boîte à outils que vous créez, avec ces rapports dont vous me parlez, avec ces commissions qui travaillent, vous me dites un élu il doit pouvoir en quelques minutes lire le résultat de nos travaux, est-ce que c'est utilisé, ce que vous faites aujourd'hui au Césaire? Est-ce que c'est suffisamment utilisé, pas suffisamment? Où est-ce que vous mettriez le curseur aujourd'hui?
Je n'ai pas de jugement de valeur, mais je dirais que la vie étant l'espérance, je le crois.
Un mot sur, puisqu'on est en effet sur des nouveaux moyens de communication, podcast et autres, quelle est votre perception aujourd'hui? Vous avez bien connu aussi le monde de l'entreprise, le monde de la communication, des réseaux sociaux. Vous les voyez comment aujourd'hui, les réseaux?
Alors là, je vais vous dire, je n'ose pas dire que j'ai une fracture générationnelle, mais quand même, bon, moi je suis, comment vous dire, désarmé devant l'instantanéité. Un truc chasse l'autre. La réflexion, le temps long, la maturité des événements. Il faut prendre le temps de tout ça. Alors, je ne peux pas m'en couper parce que dans mes fonctions, c'est impossible. Mais je garde une certaine distance. Et j'essaye surtout, quand il y a accumulation sur un sujet, de me dire pourquoi. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on se pose un peu cette question du pourquoi. Et puis, je pense qu'on a aussi à se corriger. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'adapte au temps. Et s'adapter au temps, eh bien, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser que ceux qui aboient, que ceux qui hurlent, avoir la parole sous prétexte qu'ils manient bien ces technologies nouvelles. Tant pis, il faut y aller, il faut se mettre à l'eau, il faut arriver, c'est ce que je suis en train de faire. Ce sont des balbutiements, mais je pense qu'il faut y aller.
Une dernière question peut-être sur un mot que vous venez de prononcer, qu'on n'avait pas encore utilisé, celui d'intergénération. C'est important pour vous, ce côté de transmission? Alors tout le monde en parle, hein, il faut retrouver les mentors, les tuteurs, etc. Derrière les discours, ça peut fonctionner, ça. Des gens qui ont de l'expérience et qui peuvent s'adresser aux plus jeunes, et des plus jeunes qui, eux, ont la force de la jeunesse et qui peuvent dire, mais après tout, c'est dans l'écoute entre les générations qu'on va trouver les solutions.
Enfin, quand nous, on avait 18 ans, on voulait changer le monde. Moi, je me rappelle, à Marseille, on allait près de la préfecture, il y avait un grand bar qui s'appelait le Bar Pierre. On refaisait le monde. Et on partait du principe que nos parents, les générations au-dessus de nous, ne comprenaient rien, ne savaient pas ce qu'il fallait faire. C'était normal. Il n'y avait qu'une seule différence. C'est que nous, on avait quand même le respect de nos aînés. C'est-à-dire, moi, il y a des choses que je ne serais jamais permis de dire à mon père, que mon fils me dit. Bon, alors, est-ce que c'est bien ou mal? C'est pas ça le sujet. Il faut qu'on s'y adapte. Et je pense que la seule solution, quand c'est compliqué, il faut faire simple. Et pour faire simple, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se parler. Et pour se parler, il faut parler le même langage. Et là aussi, il y a des deltas générationnels importants. Donc, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Ne pas considérer que parce que j'ai 18 ans, j'ai raison sur tout. Ne pas considérer que parce que j'ai 60 ans, je sais tout. Voilà, c'est cette espèce d'harmonie qu'il faut construire.
Et justement, sur ce sujet, l'INSEE vient de sortir une étude comme quoi cette région était une région où il y avait de la croissance démographique, mais pas naturelle. Plutôt parce que des gens arrivent sur le territoire, et donc des gens souvent d'expérience, un peu âgés, qui prennent leur retraite. Est-ce que vous pensez qu'ici, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on utilise suffisamment cette expérience qu'ont un certain nombre de personnes qui viennent passer leur vieux jour, comme on dit ici?
Mais vous savez, c'est comme tout, le mélange des générations est enrichissant. Quand vous mettez des personnes âgées entre elles dans une maison de retraite, c'est souvent triste. Il faut trouver de l'animation, il faut trouver des moyens de garder la joie de vivre et le lien avec la vie. Bon, quand on voit aujourd'hui qu'il y a de nouvelles formes de maisons de retraite qui se créent, où on fait de l'intergénérationnel, c'est extraordinaire. Parce que les jeunes, qui souvent sont des jeunes qui ont besoin d'être logés dans des conditions pas trop chères, etc., donc qui ont plutôt un éloignement avec une structure familiale, retrouvent des personnes comme des grands-parents qui peuvent leur parler du passé, qui leur amènent des images, qui leur amènent des histoires. Donc c'est bon. Et puis pour la personne âgée, avoir un jeune pétillant de vie, c'est passionnant d'avoir ça à côté de soi. Donc toujours pareil, je pense que le mélange est un facteur d'enrichissement. D'ailleurs, on le voit dans la nature. S'il n'y a pas la diversité de la biodiversité, il n'y a pas de renouvellement de la nature. Donc ça doit nous faire réfléchir pour l'homme.
Merci Marc Pouzet, président donc du Conseil économique, social et environnemental de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci d'avoir accepté de participer à cette série de podcasts. Merci.
Merci beaucoup.